Après-midi, il ne fera que 10 à Tarbes. Vous aurez 13 à La Rochelle, 13 à Bordeaux, 13 à Agen, à Auch ou encore à Biarritz. Mais sur l'Ouest en général, hein, ça va vraiment être faible pour la saison. 14 à Caen, 14 à Nantes, 14 à Rennes, au Havre. On n'aura que 15 aussi à Clermont-Ferrand, le Brest et Le Mans, 17 à Nice et à Marseille, 17 à Bourges et Orléans, 18 à Lyon. Là où on dépassera les 20 degrés, c'est sur le quart nord-nord-est du pays, où là ce sera plutôt agréable pour la saison. 21 à Paris, 22 à Lille. Il fera 25 à Metz et on ira jusqu'à 26 à Strasbourg.
Merci Marina, vous écoutez RTL, il est 5h.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Avec Tom Lefebvre pour votre premier journal et à la une ce matin, cette note des renseignements qui appelle à la vigilance pour les manifs du 1er mai.
La crainte de débordement liée au contexte géopolitique et aux Jeux Olympiques. À suivre aussi le grand soir pour le PSG en demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Le projet de loi agricole qui arrive à l'Assemblée et les débats s'annoncent très animés. Et puis les jeunes sont de plus en plus myopes à cause de leur téléphone. La question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous attaché à la tradition du muguet? On est le 1er mai. Ce matin, vous dites oui à 52%.
Et puis dans un quart d'heure, votre nouveau rendez-vous depuis lundi, RTL événement, le rendez-vous de la rédaction. Embarqué ce matin avec les brigades anti-harcèlement scolaire. Rendez-vous donc avec Nerissa et Mani pour ce reportage.
RTL Matin.
270 cortèges sont prévus aujourd'hui dans toute la France, jusqu'à 150 000 personnes attendues dans les rues pour les traditionnelles manifestations du 1er mai. On se souvient, l'an dernier, ils étaient 800 000 à défiler contre la réforme des retraites. RTL a eu accès à une note des renseignements. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui, Maxime Lévy ?
Eh bien, si cette année le 1er mai n'est pas dans le sillage de la contestation contre la réforme des retraites, il s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu. Dans une note confidentielle que nous avons consultée, les agents du renseignement territorial le disent, plusieurs organisations pro-palestiniennes appellent à garnir les cortèges, faire entendre leurs slogans, tout comme des groupes d'ultra-gauche anticapitalistes qui pourraient profiter de la fête du travail pour donner de la voix contre l'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Au total, 4 à 800 personnes considérées comme à risque sont susceptibles de perturber le défilé parisien aujourd'hui. Alors pour autant, on devrait être loin des violentes images de l'an dernier, comme celle, on se souvient, de ce policier parisien incendié par un cocktail Molotov. Non, non, là, le renseignement prévoit des cortèges plus familiaux, plus encadrés par les syndicats, des manifestations plus apaisées, où devraient se réunir près de 150 000 personnes en France, dont 30 000 à Paris, selon les prévisions du renseignement.
Et on le disait, merci Maxime, des manifestations un peu partout dans le pays, à Paris, entre République et Nation à partir de 14h cette fois, pas d'unité syndicale, un retour à des défilés distincts. 1er mai, c'est le jour qu'a choisi Jordan Bardella pour dévoiler sa liste de candidats pour les européennes. Il sera en meeting aux côtés de Marine Le Pen cet après-midi à Perpignan.
Bon, alors pour le Paris Saint-Germain, ce ne sera pas un jour férié aujourd'hui, hein, ce soir en demi-finale de Ligue des Champions.
Match aller entre le PSG donc et le Borussia Dortmund à l'extérieur. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour, bonjour à tous.
Un match que les Parisiens abordent dans des conditions idéales.
Oui, troisième demi-finale en 5 ans et dans les têtes parisiennes, ce ne doit être qu'une étape. Depuis les huitièmes de finale, il y a un élan, une dynamique confirmée par l'attaquant Gonçalo Ramos.
Nous sommes davantage une équipe. Nous sommes presque comme une famille. On croit en nos qualités. On est calme, confiant, on est prêt.
La saison ou jamais, le refrain revient souvent. Il y en a un qui ne veut pas laisser passer l'occasion d'une deuxième finale de Ligue des Champions. C'est Kylian Mbappé, auteur de 8 buts en 10 matchs dans la compétition.
Et Nicolas, celui qui a transformé cette équipe parisienne, c'est l'entraîneur Luis Enrique.
Il a fixé un cap, il a convaincu surtout son groupe que tout était possible et il fait gagner ce PSG en équipe, ça veut dire beaucoup à Paris. Luis Enrique a conquis les supporters parisiens.
On a vraiment une équipe qui tourne, tout le monde joue, ça c'est ce qu'on aime bien. On n'a jamais vu ça au PSG et franchement j'aime cet entraîneur pour ça.
C'est sûr que ça change totalement le coach, on voit qu'il prend le contrôle, il ose sortir les grands joueurs, c'est ça sa force, c'est le collectif pour moi la force qui fait qu'on va peut-être gagner avec des champions cette année.
Frappé fort dès son arrivée dans un club, le technicien espagnol de 53 ans sait faire en 2015 pour sa première saison bon Barça. Il avait réussi un triplé incroyable, championnat, Coupe d'Espagne et Ligue des Champions.
Merci Nicolas Georgerou. Et vous serez aux commentaires de ce PSG Dortmund. Notez bien le rendez-vous RTL Foot, 20h, 23h spécial Ligue des Champions, autour d'Eric Silvestro. Et puis je vous signale que le Bayern Munich et le Real Madrid se sont quittés hier soir sur un nul de partout.
Il est 5h04 sur RTL. Nous sommes un mois après l'agression de Samara à Montpellier et le collège a été mis hors de cause par l'enquête administrative.
Et qui ne retient aucun manquement fautif ni de harcèlement scolaire. D'ailleurs, ce que dénonce la famille, l'enquête judiciaire, elle se poursuit.
Et à 6h15, on sera en ligne avec Nora Tirane-Fraisse, fondatrice et déléguée générale de l'association Marion La Main Tendue. Sa fille Marion s'était suicidée en 2013 et elle regrette sincèrement le ton de ce rapport administratif qui a été publié hier.
Dans l'actualité également, une marche blanche en hommage au jeune Matisse sera organisée samedi après-midi à Châteauroux, une semaine après la mort de l'adolescent de 15 ans au cours d'une rixe. L'agriculture au menu des discussions à l'Assemblée nationale qui entame en commission l'examen du projet de loi d'orientation agricole. Vous savez, ces mesures annoncées par le gouvernement après la colère paysanne de janvier. Mais ces mesures, elles font face à une vive opposition, Thomas Desprez.
Oui, comme si la crise s'offrait un deuxième round plus politique encore. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les oppositions n'entendent pas faire de cadeaux au gouvernement avec près de 3000 amendements déposés rien qu'en commission, dont une grande majorité venue des Républicains, pour qui le compte est loin d'y être. Julien Dive est député de l'Aisne.
On nous a vendu une réponse idoine à la crise agricole. En fait, on s'aperçoit que la loi ne concerne qu'un bout des revendications, mais qui ne joue pas à ce jeu dangereux, parce que ça peut aussi vite revenir comme un boomerang.
Si ça continue, les agriculteurs vont retourner sur les barrages, menace même l'un de ses collègues. Et c'est bien ce que risquent aussi de dire certains syndicats qui seront reçus demain à l'Elysée. D'ailleurs, Emmanuel Macron, qui avait prévu un grand discours pour, je cite, « dessiner l'avenir de la profession », a préféré à la place une réunion à huis clos, signe que la colère est loin d'être tout éteint.
Thomas Desprez du service politique de RTL.
Dans l'actualité également, cette aide pour les automobilistes pénalisés par la fermeture de l'autoroute A13 près de Paris.
L'État va prendre en charge la moitié du prix du péage de l'autoroute A14. Pour les covoitureurs, il faut donc être deux dans la voiture. Le temps du désagrément, on ne connaît pas encore exactement les modalités. À retenir de l'actualité à l'étranger, les États-Unis appellent le Hamas à accepter sans plus tarder la proposition de trêve avec Israël. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet qu'avec ou sans trêve, il y aura une offensive terrestre à Rafah, cette ville où se sont réfugiés près d'1,5 million de personnes. Et puis à New York, cette nuit, la police est intervenue sur le campus de l'Université Columbia, où des étudiants pro-palestiniens se sont barricadés pendant plusieurs heures.
Et puis on vous en parlait hier, ce rapport d'experts remis au gouvernement concernant l'exposition des enfants devant les écrans, qui ont des conséquences directes sur la santé.
Figurez-vous qu'à Séoul, 97% des adolescents sont myopes. Alors en France, c'est quand même moins, mais le constat est alarmant. Et il y a des professionnels qui le remarquent directement. Ce sont les ophtalmos et les opticiens. Illustration à Metz, aux côtés d'une addict au téléphone, avec Dimitri Ramelot.
Oui, jamais sans mon portable pour Océane, 21 ans, myope depuis l'entrée au collège, les yeux fatigués par une surconsommation de son smartphone.
Par exemple, lundi dernier, j'étais à 10h09. Snapchat, je suis à 3h30, TikTok 1h10, Instagram 32 minutes, YouTube 30 minutes. Pour tout ce qui est jeu, je suis à une vingtaine de minutes par jeu.
Et l'étudiante en psychologie reconnaît une addiction qui commence parfois encore plus tôt, comme le constate Michael Navarro, opticien à Metz.
Même les enfants à l'école, ils ont leurs devoirs, ils reçoivent sur tablette, sur téléphone. Au niveau des fabricants de verres, ils ont dédié maintenant des verres qui s'appellent des verres freinateurs de myopie pour éviter que les myopies évolutives, ça devienne une vraie maladie, arrive trop rapidement chez les jeunes.
Mais vous avez vraiment des très jeunes enfants.
3-4 ans, on arrive à avoir des corrections avec des grosses myopies déjà.
Et l'opticien enregistre une forte augmentation de ces cas de myopie chez les très jeunes, qui constituent donc une nouvelle clientèle.
À Metz, pour RTL, Dimitri Ramelot. Et puis Jérôme, Marina, il suffisait de 5 chiffres et 2 étoiles. Le jackpot exceptionnel de l'Euromillion.
Dit comme ça, oui.
Oui, on vous en parlait hier. A été remporté en France plus de 166 millions d'euros. On avait joué avec toute l'équipe, je vous avais donné des petits conseils hier. Bon, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas gagné, nous.
Non. Merci beaucoup Tom, vous restez quand même avec nous.
Oui, je suis là.
Parce qu'à 5h20, on va revenir sur le 1er mai.
Oui, c'est un jour férié, mais pas que, c'est aussi un jour chômé, je vous dirai la différence entre les deux, ce qui fait du 1er mai un jour assez particulier.
Et d'ailleurs, vous êtes nombreux, hein, Marina, à nous envoyer vos messages pour le 1er mai, à nous souhaiter un bon 1er mai.
Stéphanie nous souhaite un joyeux 1er mai, tout comme Brigitte, Karine, Michel ou encore Pénélope. Il y en a qui ne travaillent pas, mais qui nous écoutent quand même de leur lit. C'est le cas de Franck de Nice, qui nous écoute depuis son lit, tout comme Hélène. Ils ne sont pas dans le même, mais ils sont deux auditeurs.
On ne sait pas.
Voilà. A priori. Hein. Et puis, en parlant du 1er mai, nous avons Guillaume qui, lui, est dans la banlieue ouest de Brisbane, où il fait 24 degrés. Il nous dit qu'il n'y a pas de fête du 1er mai, mais nous avons bien une fête du travail, le Labor Day, mais ça varie d'un état à l'autre, en fait. Et dans le Queensland, là où il est, c'est le premier lundi de mai.
Merci Marina. Tous vos messages, évidemment, sur le groupe Facebook de l'émission, par SMS également. 64 900 code matin. Il y a aussi les mails, hein, rtlpetitmatin@rtl.fr. À suivre dans vos petits matins, RTL événement dans 5 minutes maintenant. Comment lutter contre le harcèlement scolaire? On a suivi une référente anti-harcèlement à l'Académie d'Amiens. Quel est son rôle exactement? Sa présence a-t-elle permis de faire baisser le nombre de cas? Reportage de Nerissa Emani. Et on peut parler ensemble de ce sujet au 3210. Hier, on a appris, on en parlait dans le journal, le résultat de l'enquête administrative après l'agression de Samara à Montpellier début avril devant son collège. Enquête qui a conclu que l'établissement n'était pas responsable. On a entendu la colère de la maman de l'adolescente. Pas toujours facile de définir avec précision les responsabilités dans ce genre d'affaires. Vous êtes prof, vous êtes parent, n'hésitez pas à nous appeler 3210. Au programme également d'ici trois quarts d'heure, RTL Autour du Monde. On sera en France ce matin, exceptionnellement. Le Tourmalet dans les Hautes-Pyrénées qui se prépare à la visite du président chinois Xi Jinping. Ce sera la semaine prochaine.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Tu t'es perdu, Klaus.
Moi, à moins de 25 degrés, j'y vais pas. Moi, l'eau froide, c'est pas mon truc, donc j'irai pas.
Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
Alex Vizorek et sa visioconférence hier soir, 18h37, comme tous les soirs. Au programme hier, Gérard Depardieu, Véronique Sanson et Gabriel Attal qui devraient finalement débattre avec Jordan Bardella.
Ça va être chouette à regarder, hein, débat Macron-Le Pen version Wish.
Le débat de chez Wish.
Ouais, c'est plus comme The Voice, si vous voulez. Macron-Le Pen, c'est l'émission normale, et Attal Bardella, c'est The Voice Kids.
Sans transition, oui. La surpopulation carcérale atteint un niveau record en France, 77 450 détenus en France au 1er avril.
Eh oui, les détenus sont généralement 3 par cellule, avec une moyenne d'un mètre carré d'espace vital par personne. Et ça, c'est les chiffres, comme vous disiez, d'avril. Hein. Vous voyez ce que ça va être au mois d'octobre, quoi.
Ah oui. Pourquoi ça, octobre?
C'est le procès de Gérard Depardieu. S'il est condamné et incarcéré, il y a deux co-détenus qui vont avoir beaucoup moins qu'un mètre carré d'espace vital.
C'est clair. Hein, People, ouais. Véronique Sanson a été hospitalisée hier suite à une pneumonie et doit donc annuler un concert.
Bien sûr, et on lui souhaite le meilleur, même si ça ne doit pas être facile pour les infirmiers qui veulent la soigner, puisque quand il lui demande, Madame Sanson, on peut vous aider? T'as besoin de personne, hein, dans ta chambre, c'est ce que je te dis.
C'est vraiment Véronique Sanson.
Alex Vizorek, que vous retrouverez ce soir à 18h37.
RTL, le podcast du jour.
Alors je vous conseille aujourd'hui Au cœur de la création, le podcast RTL de Xavier Demoulin. Vous le savez, chaque semaine, Xavier reçoit un artiste qui lui ouvre les coulisses de son imaginaire. Et dans le dernier épisode, il reçoit Guillaume Musso, l'écrivain aux 34 millions d'exemplaires de livres. Il livre ses secrets d'écriture.
Moi, quand même, le truc qui m'est le plus utile, c'est quand même de me dire, je veux, dans la mesure de mes moyens, écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur. Donc il y a ce processus, quand vous écrivez, de dédoublement. C'est-à-dire, vous êtes à la fois l'auteur, le romancier devant son clavier, et vous êtes le petit garçon à côté qui écoute l'histoire qu'on est en train de lui raconter.
Mais l'acte d'écrire, c'est quand même fuir le monde.
Oui, c'est être arraché à un moment de sa propre vie, pour vivre finalement de façon plus grande, pour vivre mille vies, dirait Umberto Eco. Alors c'est fuir le monde pour essayer de le comprendre et pour essayer de mieux y revenir.
Dans les coulisses de la création de Guillaume Musso, pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone. Vous cliquez sur la petite loupe et dans la barre de recherche, vous tapez Au cœur de la création. C'est votre nouveau rendez-vous info depuis lundi, RTL événement, enquête et reportage. Ce matin, nous avons suivi une référente anti-harcèlement dans un collège. Restez avec nous sur RTL, il est 5h13.
RTL Matin, l'angle éco.
Les grandes entreprises internationales ne cessent de grossir, François, au point qu'elles représentent maintenant des forces économiques considérables dans nos pays.
C'est vrai. Prenez LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. C'est aujourd'hui la première capitalisation boursière en France, de très loin. LVMH exporte aujourd'hui davantage que toute l'agriculture française.
L'angle éco à 7h35.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
À retenir dans l'actualité, notamment le foot, avec le PSG qui est aux portes de la finale de la Ligue des Champions. Paris se déplace à Dortmund ce soir à 21h en demi-finale. Allez, écoutez l'entraîneur parisien Luis Enrique.
On doit essayer de bien gérer nos émotions, la pression, et être ambitieux. Il ne faut pas voir la pression comme une menace. Je crois que nous arrivons au meilleur moment de la saison.
On y revient dans le journal de 5h30 et puis hier soir dans l'autre demi-finale. Allez, le Bayern et le Real Madrid se sont quittés sur un match nul de partout.
RTL événement.
Et l'événement ce matin, c'est cette immersion aux côtés de ceux qui luttent au quotidien contre le harcèlement scolaire. Alors que l'enquête administrative dans le collège de Samara à Montpellier n'a révélé hier aucune défaillance de la part du personnel de l'éducation dans l'agression de la jeune fille. Comment faire pour prévenir et sensibiliser au mieux les jeunes au harcèlement? Qu'est-ce qui est mis en place? RTL a passé une journée avec la référente anti-harcèlement scolaire de l'Académie d'Amiens. De ses opérations de sensibilisation dans les établissements à la prise en charge des signalement des parents. Bonjour Nerissa Imani.
Bonjour, bonjour à tous.
La journée commence au collège Eugène Lefebvre à quelques kilomètres d'Amiens.
Oui, devant des élèves de 6e, Claire-Emmanuelle Novazic questionne.
Comment on voit qu'un copain, peut-être il se fait harceler.
Toujours la tête ou il est toujours tout seul.
Peut-être il arrive en retard parce que les copains qui l'embêtent, ils sont tous les matins devant la grille.
Pendant une heure, la référente du rectorat donne les conseils de base pour faire face au harcèlement.
Qu'est-ce qu'il faut faire si on est victime de harcèlement?
Il faut en parler.
À qui on peut en parler? On choisit des personnes de confiance à qui on peut en parler, parce que le but, c'est que ça s'arrête.
Petit à petit, la parole se libère et certains partagent leur expérience.
Moi, en CM1, il y a des gens qui disaient que je courais d'une façon bizarre. Ils m'insultaient d'un surnom, tout ça. J'en avais pas parlé au professeur.
Et donc, tu trouves ça bien qu'on en parle aujourd'hui un peu plus du harcèlement?
Je pense, dans le collège, il y a des gens, ils vont se dire « Ouais, je vais arrêter d'harceler et tout ça. »
Car si Claire-Emmanuelle intervient dans ce collège, c'est parce qu'on lui a signalé plusieurs situations conflictuelles.
Plus tôt la situation est prise en charge, plus on a de facilité à la résoudre et moins on arrive sur des situations complexes avec des conséquences très graves qu'on connaît jusqu'au suicide.
La référente va donc intervenir en priorité dans toutes les classes de 6e.
Et est-ce que cette référente aide aussi à la mise en place des dispositifs de lutte contre le harcèlement au collège ?
Oui, comme le programme phare qui existe dans tous les collèges de France, ce sont des élèves et des profs formés à détecter une situation de harcèlement et à agir. Christelle organise une réunion pour faire le point.
Qu'est-ce que vous avez fait depuis l'année dernière, vous, en tant qu'ambassadeur dans l'établissement?
On a mis en place les rubans verts. Quand on en prend un, on signe une charte d'engagement, on s'engage à, si on est témoin de harcèlement, à en parler, à ne pas harceler.
Trois quarts des situations de harcèlement ont été résolues dans le collège grâce au programme.
J'ai eu quelques personnes aussi qui m'ont témoigné qu'ils s'étaient harcelés.
Mathis, élève de 5e, est ambassadeur.
Et du coup, je leur ai dit qu'ils allaient en parler à leurs parents, etc.
Et ça a pu déclencher quelque chose?
Les harceleurs ont été virés de l'établissement.
Après une matinée d'échange, Claire Emmanuelle rentre au rectorat pour sa deuxième mission de la journée, écouter les parents.
Et pour cette mission, la référente n'est pas seule.
Oui, dans le bureau appelé cellule anti-harcèlement, elles sont trois, dont deux anciennes conseillères principales d'éducation, d'ex-CPE habituées à agir sur le climat scolaire. Désormais référentes au rectorat, elles répondent aux appels des parents démunis face à une situation de conflit.
Je vous appelle, j'ai eu un mail de votre part concernant la situation de vos enfants. Donc là, il y a eu de la violence dans les vestiaires, c'est ça? C'est l'autre élève qui veut lui taper dessus. La professeure, elle est au courant. Là, vous attendez ce soir de voir si le professeur vous rappelle. Si vous n'avez pas d'appel, on se recontacte demain.
La majorité des appels concernent le harcèlement scolaire. Mais dans le cas d'un cyberharcèlement, Claire-Emmanuelle oriente les parents vers la plateforme 3018 qui peut suspendre des comptes ou des publications malveillantes. Et cette année, les signalements augmentent.
Depuis ce début d'année, cette libération de la parole, on a des familles d'élèves auteurs qui nous appellent pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour leur enfant, qu'est-ce qu'ils risquent, comment faire pour que ça se passe bien aussi pour eux.
dans leurs établissements. En France, chaque rectorat a sa brigade de lutte contre le harcèlement. Au moins 150 personnes sont mobilisées à temps plein.
150 personnes à temps plein. Merci beaucoup RTL Événement, signé ce matin Nerissa Emani. Et on poursuit d'ailleurs la discussion autour de ce sujet ensemble au 3210.
Avec Aline, à direction Boulogne-sur-Mer, qui est professeure de français au collège. Bonjour Aline.
Oui, bonjour.
Bonjour Aline. Merci de vous lever très tôt ce matin,
oui,
parce que vous êtes en congé.
Je vous en prie, pas de
bon.
Soucis.
Qu'est-ce que vous avez pensé à l'écoute de ce reportage? Est-ce qu'on a progressé en matière de lutte contre le harcèlement scolaire, vous qui êtes prof dans un collège?
Oh mon Dieu, on n'a peut-être pas assez de recul pour avoir déjà progressé. En tout cas, on en a davantage. Donc peut-être que déjà le fait d'en parler, on est peut-être un peu plus vigilant. Après, c'est vrai qu'il va nous falloir rentrer ces pratiques dans nos habitudes de travail. Et puis, essayer au maximum d'être à l'écoute, d'être attentif aussi. C'est pas si évident que ça, oui. Dans la gestion de classe, dans les couloirs. Les équipes phares qui ont été créées dans les établissements scolaires, les rendre les plus visibles, les plus audibles possibles, et puis essayer de faire en sorte que ce fléau du harcèlement devienne complètement
disparaisse. Vous avez, vous, des référents qui interviennent comme ça, comme dans le reportage qu'on entendait?
Alors oui, nous, il y a des équipes qui ont été créées dans nos établissements, à la fois avec des professeurs, les infirmières scolaires, l'assistante sociale, la CPE, et puis les élèves. Et puis, c'est vrai que c'est un fléau qui est au collège, mais il n'existe pas uniquement qu'au collège. Et c'est aussi un des gros soucis, c'est qu'il se déplace souvent sur les réseaux sociaux. Et là, ça échappe au collège. C'est ça qu'il ne faut pas oublier.
Et vous-même, vous avez déjà été confrontée au harcèlement de vos élèves?
C'est vrai que parfois il y a des remarques qu'on entend qui peuvent être blessantes, mais le harcèlement, c'est vraiment, faut pas oublier que c'est quelque chose de répété, de répétitif, quelque chose qui est récurrent. Et moi, pour un de mes élèves, aussitôt que j'ai une remarque ou que je sens que l'élève se sent moins bien, etc., on a des cellules de veille, on a des équipes qui nous permettent de nous appuyer sur eux et donc de faire remonter. Nous, en tant qu'adultes, de toute façon, au sein même d'établissement scolaire, on ne laissera jamais une remarque discriminatoire, raciste, et évidemment, aussitôt qu'une situation nous interpelle, on la fait remonter.
Mais vous l'avez dit, Aline, ça se poursuit en ligne, et ça, c'est peut-être hors de contrôle?
Tout à fait. Je pense sincèrement que c'est ce qui pose le plus de problèmes et ce qui va être, à mon sens, de plus en plus, et rendre la situation extrême, en fait. Les raisons pour lesquelles les enfants qui subissent le harcèlement passent à des extrêmes comme le suicide, etc., c'est justement à cause de ça. Parce que le harcèlement ne s'arrête plus, en fait. Avant, il y avait quand même le cocon familial, il y avait la soupape qui permettait, une fois que l'école s'arrêtait, de pouvoir respirer. Et là, elle n'existe plus.
Merci beaucoup Aline pour ce témoignage. Juste une pour finir, ce rapport, cette mission administrative qui a rendu ses conclusions hier concernant l'agression de Samara à Montpellier, rapport disant l'établissement n'y est pour rien, c'est pas du harcèlement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme en tant que prof?
Devoir de réserve d'abord. Et puis après, je pense que sincèrement, c'est pas si évident que ça. C'est un peu facile de pointer du doigt l'institution. On essaie vraiment tous, soyez convaincus de ça, que tous les professeurs, que toutes les équipes éducatives essayent vraiment de faire le maximum, sincèrement. Par contre, s'il y a des défauts et s'il y a des manquements, il faut qu'ils soient punis.
Merci beaucoup Aline, vous êtes prof de français au collège à Boulogne-sur-Mer. Merci d'avoir été en direct ce matin sur RTL. Bonne journée, bon 1er mai.
Merci vous aussi, bonne fête du travail.
Merci, bonne journée. Il est 5h23 sur RTL.
RTL Matin, on vous en parle.
Beaucoup de gens qui ne travaillent pas aujourd'hui, mais vous, Tom, vous nous faites le plaisir d'être là en ce 1er mai, jour férié.
Oui, jour férié puisque c'est la fête du travail. Et petite colle, Jérôme, Marina, d'après vous, enfin déjà connaissez-vous la particularité de ce jour férié du 1er mai ?
Non.
Ça m'arrange que vous me disiez non, mais
alors
c'est,
non,
c'est tout le but de
non.
ma chronique.
Bah non, non.
C'est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés de toutes les entreprises et organisations confondues. Alors, on connaît les autres jours fériés, hein, il y en a 10, il y en a 11 même en tout, le 1er janvier, lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, etc., etc. Mais contrairement aux idées reçues, tous ces jours fériés, hors le 1er mai donc, ils ne sont pas chômés, c'est au bon vouloir de votre employeur de vous laisser en repos ou de vous contraindre à travailler, même si dans la majeure partie du temps, bah, les salariés ne travaillent pas. Dans ce cas, je précise, ils ne perdent pas de revenus.
Et donc, le 1er mai est un jour férié particulier.
Oui, puisqu'il est donc obligatoirement chômé. Ça veut dire que tous les salariés, quel que soit leur âge, leur sexe, leur ancienneté, ne travaillent pas et ont un maintien de leur salaire. Il y a quand même une exception pour les services qui ne s'arrêtent jamais. Je pense aux hôpitaux, aux forces de l'ordre ou encore aux transports publics.
Et alors, nous, quoi, les journalistes ?
Et nous aussi.
Et nous aussi. Donc ça veut dire qu'on est payé plus ?
Oui, alors la tradition veut que le salaire soit multiplié par deux. C'est à la charge de l'employeur et c'est une obligation légale. Mais il y a quand même une alternative, avoir un jour de repos supplémentaire.
Bon, c'est très clair, le 1er mai c'est repos, enfin normalement. Hein. Et alors, il y a d'autres jours fériés qui arrivent en mai, Tom ?
Oui, il y en a trois autres. Et si vous m'avez suivi, bah, vous aurez compris qu'ils ne sont donc pas obligatoirement chômés. C'est-à-dire que vous pouvez travailler même les jours fériés. Mercredi prochain, le 8 mai, puis le lendemain, le 9, hein, ce sera l'Ascension. Et enfin, le lundi 20, le lundi de Pentecôte. Alors je sais ce que vous vous dites, il va y avoir de beaux ponts, on peut même appeler des viaducs en l'occurrence pour la semaine prochaine, mais là bah, il n'y a aucune réglementation, ça dépend des dispositions conventionnelles ou des accords collectifs. Donc deux cas, soit vous ne travaillez pas et donc vous ne perdez pas d'argent, soit vous travaillez et là les jours sont rémunérés normalement puisqu'ils ne sont pas chômés, sauf si l'employeur décide d'augmenter votre salaire, mais ça c'est vraiment au cas par cas, ou alors de vous donner un jour de congé supplémentaire.
Mais alors que vient faire la journée de solidarité dans tout ça?
Ah, alors ça, Jérôme, c'est une autre histoire. C'est une journée durant laquelle vous travaillez plus, mais sans être payé plus. C'est pour financer en fait des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Ça concerne tous les actifs. Et alors souvent, vous savez, les entreprises choisissent le lundi de Pentecôte. Donc là, en l'occurrence, c'est le 20 mai. Mais les entreprises sont libres de choisir la date. Ça peut donc être un jour férié, mais aussi un jour de repos, un samedi par exemple, où on décide de vous faire venir, ou n'importe quand, le temps que vous travaillez 7 heures supplémentaires, qui, on l'a compris, ne sont pas rémunérées, elles vont dans des caisses de l'État.
Chômé ou férié, on a tout compris grâce à vous. Merci beaucoup, Tom Lefèvre.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et vos grosses têtes, 15h30, 18h, qui elles ne chôment jamais. Écoutez cette histoire drôle, signée Jean-Marie Bigard.
Le mec au théâtre, il est affalé. Tu sais, à l'orchestre, il tient trois rangs, quoi. Il y a l'ouvreur qui arrive, il dit « Monsieur, un petit peu d'élégance, quand même. Vous êtes là, vous tenez trois sièges en même temps. Donnez-moi votre ticket !» Il lui donne le ticket, il dit « En plus, vous avez un ticket balcon et vous êtes à l'orchestre. Ça va vous coûter très cher, monsieur. » Il dit « Je suis plus à ça près, je viens de tomber. »
Elle est mignonne, celle-là.
Vous retrouvez vos grosses têtes tous les jours entre 15h30 et 18h sur RTL. On va en parler avec Stéphane Boutsock tout à l'heure. C'est un film qui sort aujourd'hui sur vos écrans. Un petit truc en plus. C'est un film réalisé par Artus, avec Artus. Premier film d'ailleurs qu'il réalise. C'est avec Clovis Cornillac et Alice Belaïdi. Pour échapper à la police, un fils et son papa en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Ils se font passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. C'est le début des ennuis et d'une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. C'est mignon tout plein. C'est à voir à partir d'aujourd'hui. Et pour gagner des places, et ben vous appelez le 32-10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux entrées. Bonne chance à tous. 3-2-1-0.
RTL.
Le temps du muguet ne dure jamais.
Alors comment voir le verre à moitié plein aujourd'hui, Bernard ? Disons qu'il fait très doux dans le nord et le nord-est.
Oui, voilà. J'aurais une autre bonne nouvelle, mais la douceur. Oui, mais attention, attention. Et c'est pas ce que vous croyez. Alors, le Nord et le Nord-Est.
Une autre bonne nouvelle, mais c'est pas ce que je crois, d'accord.
C'est du teasing. La douceur, en effet, hein, cet après-midi, juste pour vous. 26 à Strasbourg, 25 à Metz, 23 à Mulhouse. Là, on est bien au-dessus des moyennes de saison. Tout comme à Lille, 22 à Lille, 21 à Paris et Besançon. Donc voilà, on a 20 à 26 degrés sur ce petit quart Nord-Nord-Est. Pour les autres, les températures sont plutôt fraîches pour la saison et notamment le sud-ouest, 10 degrés au meilleur de la journée. À Tarbes, il ne fera que 13 à La Rochelle, 13 à Bordeaux, à Agen ou encore à Biarritz, 14 à Caen et à Nantes, 15 à Clermont-Ferrand et Brest, 17 à Nice et à Marseille et 18 degrés à Lyon.
Bon, c'est de bonnes nouvelles.
Les Pyrénées-Orientales, il pleut. Ah ben c'est bien. Après presque 3 ans de sécheresse.
D'accord.
Alors, voilà, c'est une bonne nouvelle. Bah oui, quand même la pluie, la bienvenue là-bas. On a des averses assez nombreuses là en Méditerranée et donc sur les Pyrénées-Orientales, mais pas que, puisque la perturbation s'étend de la Corse à la Méditerranée. Elle remonte vers le Limousin et l'Auvergne, le centre Val-de-Loire et les Ardennes. Et il y a une deuxième perturbation là qui est arrivée par l'Atlantique. Elle est en ce moment du Cotentin jusqu'à la Loire-Atlantique, la Vendée et sur la façade atlantique. Ces deux perturbations vont fusionner et cela va donner cet après-midi un temps gris, pluvieux, parfois orageux et on surveillera ce soir les orages en Bourgogne qui pourraient être localement violents. Des pluies qui seront assez soutenues, on aura de la neige aussi en montagne, que ce soit sur les Pyrénées ou les Alpes. Les seuls qui vont échapper à ce mauvais temps, ce seront l'Alsace et la Lorraine, où ce sera un temps partagé entre nuages et éclaircies, mais vu les températures, ce sera très agréable comme impression. Et puis il y aura du mieux quand même dans l'après-midi sur la façade atlantique de la Bretagne en allant vers le Pays Basque, on aura quelques éclaircies et il y aura moins d'averses cet après-midi que ce matin.
Merci Marina. Mercredi 1er mai, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Julie Pietri, 69 ans.
Aime-le-toi.
C'était très joli ça, Tom. Vous pouvez refaire ?
Aime-le-toi.
Qu'à moi. Ouais, je préfère la version de Tom en fait.
Ah.
Julie appréciera.
Allez, levez-vous. Il est 5h30 sur RTL.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Elle est levée depuis fort longtemps pour vous informer, c'est Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
Paris aux portes de la finale de la Ligue des Champions ce soir.
Le club retrouve Dortmund pour les demi-finales. Allez, ce sera à vivre sur RTL. C'est l'information de la nuit aux États-Unis. La police a délogé les étudiants pro-palestiniens de l'Université de Columbia. Et puis, c'est l'un des changements de ce 1er mai. Il faudra désormais payer 100 euros de sa poche pour suivre une formation avec son compte personnel. On vous explique tout ça.
Après votre journal, RTL autour du monde, Xi Jinping au Tourmalet. Les Pyrénées s'apprêtent à recevoir le président chinois la semaine prochaine.
RTL Matin.
1er mai ne rime pas avec jour chômé aujourd'hui au PSG. Le club dispute ce soir sa troisième demi-finale de Ligue des Champions de football en 5 ans et il retrouve pour ça le mur jaune de Dortmund, déjà croisé en phase de poule. Les tout juste champions de France partent favoris. Alors on se demande si cette année, eh bien ce ne serait pas la bonne, Philippe Sanfourche.
Oui, c'est une petite ritournelle qui circule secrètement au sein du club et globalement chez tous les supporters. Ce sentiment, eh bien que c'est l'année du PSG. Les signaux sont là pour la première fois depuis des lustres. L'infirmerie est vide dans le sprint final. Les joueurs cadres sont en forme. Le feuilleton Mbappé a fini par s'éteindre. Pas de polémique, pas d'affaires. On ne parle que football sous l'impulsion d'un homme, Luis Enrique, qui a déjà digéré le coup de force de ses joueurs à Barcelone et entend rééditer l'exploit ce soir à Dortmund.
On doit essayer de bien gérer nos émotions, la pression et être ambitieux. Il ne faut pas voir la pression comme une menace. Je crois que nous arrivons au meilleur moment de la saison.
Devant 80 000 personnes ce soir, Paris va devoir tenir comme en décembre dernier avec un match nul qui avait permis de sortir des poules. Il sera alors temps de finir le travail dans une semaine à Paris pour décrocher la timbale. Une finale de Ligue des Champions à Wembley le 1er juin prochain.
Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL, que vous retrouvez ce soir aux commentaires de ce Dortmund-PSG. Coup d'envoi 21h, soirée spéciale sur RTL dès 20h. Hier soir, l'autre demi-finale allée a vu le Real Madrid arracher le nul face au Bayern Munich de partout. Tout reste possible donc au retour à Bernabeu mercredi prochain.
Il est 5h32, c'est l'information de la nuit. Aux États-Unis, la police a délogé les étudiants palestiniens de Columbia.
Get back or get arrested.
Les images sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de policiers en tenue anti-émeute. Ils sont ensuite entrés dans le bâtiment où des dizaines de personnes étaient retranchées depuis une journée. La présidente de la prestigieuse université a demandé à maintenir au moins pour 2 semaines la présence de policiers sur le campus. Le village de Tente, sur sa pelouse, a lui été encerclé.
Et en France, les renseignements attendent aujourd'hui 150 000 personnes dans les rues pour les défilés du 1er mai.
Bien loin des près de 800 000 recensés l'an dernier par le gouvernement en pleine contestation contre la réforme des retraites. Et si le 1er mai est la fête du travail, l'un des changements de ce début de mois concerne justement votre compte personnel de formation, puisque désormais il faudra mettre la main à la poche, Mathilde Piquet. Alors comment ça va se passer ?
Vous devrez désormais débourser 100 euros pour suivre une formation au titre de votre CPF. Jusqu'à présent, le compte personnel de formation permettait à tous les actifs de plus de 16 ans de cumuler des droits à la formation continue jusqu'à 500 euros par an. Vous pouviez ensuite passer gratuitement votre permis de conduire ou suivre des cours de langue étrangère. Seulement voilà, le gouvernement veut réduire les dépenses. Il va donc falloir contribuer avec à la clé une économie de 200 millions d'euros dès cette année pour les caisses de l'État. Alors il y aura des dérogation, les formations resteront gratuites si vous êtes en reconversion ou en recherche d'emploi. Votre employeur pourra aussi financer votre reste à charge. D'autres changements sont déjà dans les tuyaux. Dans les prochaines semaines, vous ne pourrez plus passer votre permis moto avec le CPF si vous avez déjà le permis voiture.
Mathilde Piquet du service économie de RTL. Ne vous étonnez pas si demain vous entendez les sirènes d'alerte entre 11h45 et midi et quart. 1er mai oblige, les tests mensuels du premier mercredi du mois sont reportés à ce jeudi.
Oui, précision très utile. Ce 1er mai aura aussi des airs de campagne pour les européennes.
À moins de 40 jours du scrutin, le Rassemblement National, en tête des intentions de vote, va dévoiler ses 34 premiers colistiers en meeting cet après-midi à Perpignan. Avant cela, l'écologiste Marie Toussaint donnait à 6% des voix, selon notre dernier baromètre Touluna Harris Interactif pour RTL, a présenté son programme hier soir, Marie-Bénédicte Allaire, avec 10 combats pour la justice et le vivant.
Oui, comme le résume Marie Toussaint, il s'agit de promouvoir un État-providence écologique européen en favorisant par exemple la santé du consommateur grâce à une TVA réduite pour acheter des produits sains et locaux, notamment pour l'hygiène.
Grâce à l'action européenne, nous voulons une TVA à taux plus bas, voire à taux nul, pour tous les produits qui sont faits en Europe et qui sont bons pour la santé. Ça permettra aussi de créer de l'emploi, d'améliorer le pouvoir d'achat. En gros, tout le monde y gagne.
Les écologistes veulent aussi obliger les assurances à prendre en compte les risques climatiques, comme les fissures sur les maisons, et mettre en place une protection sociale climatique partout en Europe. Et puis, il propose également de redonner un véritable poumon vert à l'Europe grâce à la forêt. Marie Toussaint.
Une forêt dans laquelle on pourrait se balader bien sûr, mais une forêt qui serait libre de toute exploitation industrielle visant à faire du profit. Une forêt dans laquelle la biodiversité pourrait se redéployer et ça pourrait être magique que de se balader dans cette forêt.
Cette forêt pourrait, pour commencer, se développer entre la France et l'Allemagne.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Et attention, si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu'à ce soir pour le faire en ligne sur elections@intérieur.gouv.fr. En mairie, vous avez jusqu'à vendredi. La mesure pourrait vous concerner si vous faites partie des 100 000 automobilistes touchés par la fermeture provisoire de l'autoroute A13. L'État va prendre en charge 50% du prix du péage de la 14 pour ceux qui font du covoiturage. Et ça pendant toute la période de fermeture de cette portion de la 13, au moins donc jusqu'au 11 mai. La mesure fonctionnera dès que 2 personnes se trouvent dans un véhicule.
Les auteurs du braquage d'un fourgon près de Lyon hier sont toujours en fuite ce matin.
Cela s'est passé à Rieux-la-Pape pour un vol concernant a priori des bijoux. Préjudice estimé au moins 560 000 euros. Le commando cagoulé de 4 personnes n'a pas fait de victime. Une enquête est ouverte. À Châteauroux, une marche blanche en mémoire de Matisse est prévue samedi après-midi. Le garçon de 15 ans tué le week-end dernier à coups de couteau. Les horaires et le parcours ne sont pas encore connus.
En Ukraine, une attaque russe de missile a fait 3 morts et 3 blessés cette nuit à Odessa, au sud du pays.
Une attaque qui témoigne une nouvelle fois de l'avancée des troupes de Moscou sur le terrain. En 7 mois d'offensive, elles ont repris plus de 500 km², Émilie Beaujard.
Oui, depuis la chute d'Avdivka en février, l'armée russe regagne effectivement du terrain, notamment dans le Donbass à l'est. Elle se rapproche dangereusement de Tchassiv Yar, la ville où est stationnée l'artillerie ukrainienne et dont une partie a dû reculer. Des avancées réelles, mais pas significatives, prévient Thibaut Fouillet, directeur scientifique à l'Institut d'études de stratégie et de défense.
Ces avancées restent confinées à
quelques kilomètres par-ci par-là, avec de très grosses pertes, avec un blocage tactique. Donc les gains sont extrêmement difficiles à faire, extrêmement lents. La prise d'Avdiivka, c'est plus de 5 mois et demi d'efforts russes.
Mais en face, les Ukrainiens sont contraints à une position défensive à cause du manque d'hommes et de munitions. C'est pourquoi lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rappelé qu'il fallait rapidement une arrivée d'armes occidentales.
Artillerie, calibre 155, armes de longue portée et défense anti-aérienne. C'est ce que nos partenaires ont et c'est ce qui devrait maintenant fonctionner ici en Ukraine pour faire échouer l'offensive russe.
En attendant, les Ukrainiens construisent des centaines de kilomètres de fortifications autour des villes stratégiques du Donbass et de l'est du pays.
Émilie Beaujard du service international de RTL. À quand une trêve à Gaza ? Israël attendra jusqu'à ce soir la réponse du Hamas au texte proposé. Depuis l'État hébreu, le chef de la diplomatie américaine appelle le mouvement à accepter cette trêve au plus vite. Mais accord ou pas, le premier ministre Benjamin Netanyahou promet d'entrer dans Rafah et de mener son offensive dans cette ville du sud de l'enclave, décrite comme le dernier bastion du Hamas.
En tennis, Rafael Nadal éliminé en 8e de finale du tournoi de Madrid.
Après 3 matchs sans défaite, une première depuis près de 2 ans, l'Espagnol de bientôt 38 ans a été battu par le Tchèque Jiří Lečeka 7-5, 6-4 hier soir pour ce qui était, sauf rebondissement, le dernier match de sa carrière dans la capitale de son pays. Et puis un Français se réveille multimillionnaire ce matin et c'est peut-être vous.
Ah bon ?
Le jackpot, bah oui, peut-être vous, Jérôme, j'en sais rien, vous aviez joué ?
Non. Ouais, moi, on a joué, mais pas les bons chiffres.
Bah, pareil, ouais, exactement pareil. Le jackpot, en tout cas, de plus de 166 millions d'euros, tout de même, a été remporté hier soir à l'Euromillion. Alors, si vous avez votre ticket sous les yeux, on vous rappelle les chiffres qu'il fallait jouer. Le 13, le 22, le 24, le 33, le 47 et les étoiles 1 et 5.
Vous avez vérifié, Tom Lefebvre ?
Oui, moi,
vous êtes sûr ?
On a joué avec Hervé, on a joué les numéros. Hier, on en avait parlé dans l'émission, on en a pas un. Ouais. Pas un.
Voilà. Ce sera pour le...
Ah, pas de chance, voilà, c'est comme
ça. La prochaine fois, je m'en occupe.
Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Message de Steph sur le groupe Facebook de l'émission. Bonne fête du 1er mai et bon repos à tous, sauf moi qui taffe. Écrit-il.
Oh, nous aussi, on est nombreux quand même à travailler. On va faire un petit aparté sur les SMS là pour les messages en ce moment avec Pascal qui est à Corbigny dans la Nièvre où le ciel est couvert, la température est de 12 degrés à Grand-Quevilly en Seine-Maritime, 11 degrés. C'est un message de Nicolas et puis alors je rappelle hein, pour envoyer vos SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS comme l'a fait Denis Charcutier à Dole dans le Jura où le ciel est couvert. 9 degrés. Là, il travaille sur du poulet rôti, pommes de terre au jus aujourd'hui. C'est pas mal, hein. Jean-Marc, lui, est à Lille, 12 degrés. Il nous souhaite une très très bonne émission. Ben, Jean-Marc, vous souhaite une très très bonne journée.
Merci, Marina.
RTL autour du monde.
RTL autour du monde, nouveau format, vous le savez depuis lundi, un reportage suivi d'un coup d'œil dans la presse. On sera en Italie, toujours traumatisé, 30 ans après la mort d'Ayrton Senna. Corriere della Sera nous raconte les dernières heures du pilote. Mais tout d'abord, direction, eh bien, une fois n'est pas coutume, la France, dans les Hautes-Pyrénées, où l'on se prépare à l'arrivée la semaine prochaine du président chinois Xi Jinping, qui sera invité par Emmanuel Macron à visiter le Tourmalet. D'ailleurs, les services secrets chinois sont déjà sur place, Patrick Jérôme, mais il faut le savoir. Hein.
Eh bien, ils se sont installés samedi dernier et même dans une station de ski déserte, ils ne se font pas remarquer.
On en parle, mais on les voit pas.
Pierrick de Dieu est restaurateur, il tient la Casa des Cimes sur les Hauts de la Mongie.
J'en ai tellement entendu que je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Alors qu'est-ce qu'on raconte ?
Oh, ben, on raconte qu'on va être envahi par 400 Chinois. Il était prévu peut-être aussi qu'il fallait qu'on sorte de la Mongie pendant les 2 jours de la présence du président. C'est l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours.
Baptiste, lui, habite à Bagnères.
Bon, c'est la relation diplomatique. Hein. Il y a tous les reproches qu'on peut faire à un régime pseudo-communiste, mais bon, si ça peut amener des débouchés en plus dans le coin, c'est pas plus mal.
Nicole tient une boutique de prêt-à-porter à Bagnères. Elle est la cousine germaine de la mère d'Emmanuel Macron.
Il venait tous les ans pendant les vacances.
Vous aimeriez que le président chinois franchisse la porte de votre magasin ?
Non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, le président chinois ?
En tout cas, vous n'avez pas eu passer de Chinois venus en repérage ?
Pas dans le magasin, mais ils sont venus il y a, je sais pas, 15 jours, 3 semaines.
Une information recoupée à la pâtisserie bordelaise de l'autre côté des allées, dévalisée par les Chinois et qui ont particulièrement apprécié les petits cochons en chocolat praliné, spécialité de la maison.
Le reportage signé Patrick Tégéro.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et comme promis, notre coup d'œil dans la presse, nous sommes en Italie ce matin où Corriere della Sera nous raconte les toutes dernières heures d'Ayrton Senna, tué tués sur le circuit d'Imola le 1er mai 1994, il y a 30 ans jour pour jour. Un héros entre querelles personnelles et doutes. L'une de ses dernières photos est prise avec des jeunes mariés au restaurant de l'hôtel Castel San Pietro où le pilote de 34 ans vient de dîner. Ce 30 mai au soir, Ayrton Senna a la tête ailleurs. Son collègue, le pilote autrichien Roland Ratzenberger, s'est tué quelques heures plus tôt sur ce maudit circuit où lui-même mourra le lendemain. La veille, Sid Watkins, le directeur médical de la F1, lui a suggéré d'en rester là. Vous avez gagné 3 championnats du monde, vous êtes le meilleur, plus besoin de prendre de risques, allez à la pêche. Mais Ayrton Senna ne peut pas s'arrêter. Michael Schumacher a remporté, lui, les 2 premières courses de l'année. Lui, 0. Alors il doit y aller. Malgré son nouveau bolide, cette Williams qui lui fait mal, la sensation d'être sur une chaise électrique, dit-il à ses proches. Ce soir-là, les pensées se bousculent dans la tête d'Ayrton Senna. Il y a aussi la pression sur sa vie personnelle. Adriane, sa compagne, considérée comme une opportuniste par son père, qui espionne le couple. Ce 30 mai au soir, sa Bible posée sur sa table de chevet, il essaie de trouver le calme. Ce sera sa dernière nuit. Ayrton ne le savait certainement pas, conclut le journal. La dernière nuit de Senna, l'envie de se battre, l'envie de battre Schumi, l'idée de partir, les désaccords, c'est-à-dire dans Corriere della Sera. 5h43, bon 1er mai à tous. On parle du muguet ce matin.
Dans RTL Bonsoir, retrouvez Marc-Antoine Lebray dans Lebray. King News.
Au Brésil, une femme a été arrêtée après avoir emmené en fauteuil roulant son oncle mort à la banque pour tenter de retirer de l'argent en son nom.
Salut les trucs. Ah, mais c'est quoi ce plagiat?
Mais pourquoi vous dites ça, Jean-Marc? Je rappelle, vous êtes la peluche de Jeff Panacloc.
Soutirer de l'argent en animant un truc tout mou? Il y a que mon Jeff qui sait faire ça.
Lebray, King News. Avec Marc-Antoine Lebray, c'est juste après le journal de 18h sur RTL.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Dans l'actualité, le 1er mai, fête du travail, pas d'unité syndicale dans la rue cette année, mais des stratégies qui se rejoignent. Enquête à suivre dans le journal de 6h. Les syndicats utilisent tous les JO pour obtenir des primes, pour obtenir des primes et des avancées sociales. La menace de grève pendant les Jeux de Paris 2024 est une arme qui fonctionne. SNCF, RATP, contrôleurs aériens, soignants de l'APHP, policiers, Christian Grolier de FO Fonctionnaire assume totalement cette stratégie.
Ces Jeux Olympiques changent la donne dans la mesure où pour nous c'est un moyen de pression qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans. Il est évident qu'on utilise cette période des JO pour que le gouvernement nous entende davantage. Il n'y a pas de raison que ce soit une fois de plus les fonctionnaires qui payent.
On y revient dans le journal de 6h. Dans l'actualité également, cette attaque de missile russe qui a fait 3 morts à Odessa dans le sud-ouest de l'Ukraine. Une première attaque lundi avait fait 5 victimes. Et puis sachez qu'une marche blanche sera organisée samedi à Châteauroux, une semaine jour pour jour après la mort de Matisse, 15 ans. Dans cette affaire, je vous le rappelle, un jeune Afghan du même âge et sa mère ont été mis en examen et écroués.
RTL Matin.
C'est notre question du jour ce matin. Est-ce que vous êtes attaché à la tradition du muguet? Est-ce que vous allez acheter votre petit brin tout à l'heure? C'est assez partagé. Vous dites oui à 53%, non à 42%. Vous votez sur RTL.fr et l'appli RTL. Pas mal de messages là-dessus, Tom.
Oui, et comme c'est le cas sur le site RTL.fr, c'est assez partagé. Roselyne nous dit oui, toutes les années, on m'offre mon petit bouquet et ça me fait plaisir. Il faut garder nos traditions, c'est ce que complète René. Eric a de la chance, il en a dans son jardin. Bon, Jean-Claude lui trouve que c'est souvent hors de prix, donc il en achètera pas cette année. C'est un faux porte-bonheur, voilà ce que dit Jacqueline. Donc vous voyez, ça se bataille un peu. Et alors Kaline nous dit non, c'est juste commercial.
Et puis on va faire un petit détour par le répondeur RTL, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur la jungle des limitations de vitesse. On en parlait hier matin, 17 changements de limitation de vitesse sur 100 km de route nationale et départementale. De quoi en perdre son latin? Écoutez le message d'Éric du Val d'Oise.
À peu près 30 à 40 000 km par an et je suis épuisé de ces changements de vitesse. Quand vous changez continuellement de vitesse le soir, quand vous rentrez, que vous avez encore 50 km à faire et que ça n'arrête pas. Conclusion, effectivement, vous perdez des points d'inattention. Tout d'un coup, vous avez oublié d'être à 70. Je pense que même ça peut devenir accidentogène.
Écoutez également ce message de Julien de Bordeaux sur le répondeur.
Je suis
suis énormément sur la route. Il faudrait vraiment faire quelque chose de très lisible, qu'on sache assez rapidement à quelle vitesse on doit rouler, parce qu'entre les 90, les 80, les 70, et ça revient à 80, etc., on ne sait plus où donner de la tête. Quand on a la chance d'avoir un bon véhicule, c'est facile, mais alors quand on n'a pas un bon véhicule, ça devient très compliqué.
Le répondeur du 3210 pour tous vos messages ou via l'application RTL et sur le site rtl.fr, vous allez dans Intervenez et puis vous laissez votre message. Prochain rendez-vous pour vous exprimer en direct sur l'info, ce sera à 13h dans Les Auditeurs ont la parole.
N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits.
Et c'est l'heure de retrouver Aline Perraudin et Olivier Dauvert pour votre info santé et conso. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Aline, vous nous dites tout le bien que vous pensez ce matin des graines de chia. Ce sont des super aliments.
Mais oui, elles continuent de s'imposer hein, comme des aliments vraiment intéressants. Et on va voir surtout comment les consommer et profiter au mieux de leurs bienfaits.
Olivier, les pourquoi de la conso ce matin ?
Et moi, je vais répondre à une question d'auditeur. Pourquoi les pâtes au bronze sont si chères ?
5h48.
RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
Pas de fête du travail ce soir pour le PSG. Les Parisiens ne doivent pas chômer sur la pelouse de Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Borussia PSG, un choc à vivre en intégralité dans RTL Foot dès 20h.
RTL Foot. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
La conso, la santé, du lundi au jeudi avec nos spécialistes Olivier Dauvert, des pâtes, oui, mais des pâtes au bronze.
Oui, tout à fait, c'est la nouvelle mode, des pâtes plus qualitatives, plus chères, et un auditeur me demandait, mais pourquoi sont-elles aussi chères ? Ben, je vais lui apporter la réponse à lui et à tous les autres.
Mais d'abord, Aline, aujourd'hui vous avez décidé de nous parler des graines de chia. Alors, qu'ont-elles de si particulier ?
Alors les graines de chia, on peut prononcer hein, chia, chia ou kia. Hein. Ce sont de toutes petites graines, le plus souvent brunes, hein, mais elles peuvent aussi être beiges. Elles font partie des aliments les plus nutritifs de la planète. Elles sont originaires du Mexique, les Mayas et les Aztèques les consommaient déjà. D'ailleurs, le mot chia veut dire rendre fort en langue maya.
Alors pourquoi sont-elles si nutritives ?
Alors, ce sont des graines oléagineuses, hein, comme les graines de lin, de courge, encore de tournesol. Elles sont donc riches en graisse, en bonne graisse. Elles apportent beaucoup d'oméga-3. Ce sont des acides gras essentiels que le corps ne sait pas fabriquer et dont on a besoin pour protéger le système cardiovasculaire et favoriser un bon fonctionnement cérébral, notamment pour bien réguler l'humeur. Ouais. Les graines de chia contiennent aussi des protéines, hein, ce qui peut être intéressant pour les personnes végétariennes ou végétaliennes qui ne consomment aucun produit animal. Puis une astuce hein, que les personnes végétaliennes connaissent bien d'ailleurs, les graines de chia peuvent remplacer les œufs dans les pâtisseries. On mélange 2 cuillères à café de graines de chia avec 3 cuillères à soupe d'eau, on laisse reposer une quinzaine de minutes et on utilise la préparation à la place des œufs.
Alors est-ce qu'elles apportent autre chose d'intéressant ?
Alors elles contiennent aussi du calcium, du fer, du potassium et du magnésium. Surtout, elles sont très riches en fibres qui représentent 35% de leur poids. Elles favorisent un bon transit. Elles contiennent principalement des fibres solubles. Alors, la particularité des fibres solubles, c'est qu'elles se dissolvent dans l'eau et les liquides digestifs et forment une sorte de gel quand elles arrivent dans l'estomac. C'est pour cela qu'on dit qu'elles ont un effet coupe-faim et elles favorisent rapidement une bonne satiété. Au niveau de l'intestin, elles ralentissent l'absorption des glucides et diminuent celle des graisses, notamment du cholestérol. C'est donc un aliment complet, vraiment très intéressant.
C'est un aliment parfait, oui. Et alors, elles conviennent à tout le monde, les graines de chia ?
Alors, on l'a dit, hein, ce sont des aliments très riches en fibres. Si on n'est pas habitué à en consommer, elles peuvent être mal tolérées, surtout si on a l'intestin irritable. Il est recommandé de les introduire progressivement hein, dans son alimentation, en commençant par exemple par 5 grammes et de ne pas dépasser 20 grammes, soit l'équivalent de 2 cuillères à soupe par jour. Bon,
et on les consomme comment ?
Alors, il est préférable hein, de les consommer une fois qu'elles sont réhydratées. Elles n'ont pas vraiment de goût, hein, faut le savoir. C'est pour leur texture gélatineuse hein, qu'on les consomme quand on les laisse tremper au contact d'un liquide. Alors une façon simple de les consommer, c'est par exemple de préparer un pudding de graines de chia. On met 2 cuillères à soupe de graines de chia dans une tasse de lait, animal ou végétal. On mélange bien, ça c'est important, et on laisse reposer au réfrigérateur. L'idéal c'est au moins 4 heures, mais on peut le laisser reposer toute la nuit. Puis avant de servir, on ajoute des morceaux de fruits frais avec éventuellement des amandes concassées, et ça fait un super petit déjeuner ou un en-cas très sain.
D'accord, donc ça n'a aucun goût, mais c'est c'est très très bon.
Voilà.
Un peu comme le tapioca, vous voyez,
oui.
Ça fait cette petite texture.
Elle sait nous faire rêver.
Merci beaucoup Aline, on va parler de pâtes désormais avec vous Olivier Dauvert. Les pâtes au bronze, pourquoi sont-elles plus chères que les autres, ces pâtes au bronze?
Figurez-vous que c'est une question d'auditeur qui m'a demandé ça, effectivement, pourquoi elles sont si chères, en tous les cas, bien plus chères que les autres. Alors déjà, un petit mot d'explication sur ce dont on parle. Pâte au bronze ne signifie pas qu'on a rajouté du bronze dans la recette, mais que le moule qui a servi à fabriquer les pâtes était en bronze. Et de ça, on va en reparler.
Mais déjà, sur le prix, ces pâtes-là fabriquées dans un moule en bronze sont vraiment plus chères?
Oui, c'est une bonne observation de notre auditeur. Regardez Jérôme, je suis venu avec des pâtes ce matin, des Barilla par exemple, parce que la marque existe dans les deux versions et c'est pour ça que c'est intéressant. Classique d'un côté au bronze de l'autre, ou Al Bronzo si je veux faire le malin, puisque c'est ce qui a écrit sur la boîte. Donc d'un côté, j'ai des linguinés classiques que j'ai acheté 1,19€. De l'autre, j'ai les fameuses Al Bronzo, je les ai payées 1,89€. Ça fait déjà 58% plus cher.
C'est le même poids, 400 grammes toutes les deux.
Et en plus, petit subterfuge, le poids des pâtes, parce que les emballages se ressemblent, et je vous prends à témoin Jérôme, les emballages se ressemblent en taille, mais le poids à l'intérieur est différent. Il y a 500 grammes dans les classiques, et il n'y a que 400 grammes dans les Al Bronzo. Donc en réalité, le prix au kilo double. Bref, ça pique.
Alors pourquoi ?
Alors, question légitime et réponse aussi, au moins partiellement. Vous allez me suivre en Italie pour ça, parce que évidemment ça se passe là-bas. Pour fabriquer des pâtes, il faut de la semoule de blé dur et de l'eau. C'est ça qui permet de faire une pâte, comme si vous prépariez un gâteau ou du pain. Pour faire des pâtes, il faut ensuite étirer cette pâte, une étape que l'on appelle le tréfilage et qui se fait dans des moules différents suivant la forme de pâte que l'on veut obtenir. Des penne, des linguine, des farfalle, des macaroni et j'en passe.
Donc ce sont les moules qui sont en bronze?
Qui peuvent l'être, mais la plupart des machines utilisent aujourd'hui du téflon, qui est un matériau qui est moins cher que le bronze et qui permet surtout d'aller plus vite. Donc qui sont parfaits pour une production industrielle et donc pour baisser les prix. Le bronze, lui, est plus cher et moins rapide, mais il a un petit truc en plus. D'abord, il permet d'utiliser des semoules de qualité supérieure, ce qui n'est pas le cas de toutes les pâtes, mais surtout le tréfilage, au bronze bien sûr, il produit une pâte qui est moins lisse qu'un tréfilage classique au téflon. Le moule laisse des rugosités sur la surface de la pâte.
Et pourquoi c'est important ces rugosités?
Les rugosités, voyons Jérôme, les rugosités, mais vous savez pas ça. C'est l'essentiel dans une pâte, en tous les cas si vous la consommez en sauce, parce que la sauce va mieux accrocher sur la pâte. Donc pour faire vraiment très simple, vous n'aurez pas dans l'assiette d'un côté des pâtes et de l'autre la sauce. Bon, quant à savoir si ça vaut vraiment deux fois plus au kilo, ça, chacun ira voir midi à sa porte, ou si vous préférez, Mezzogiorno à la soie porta, pour parler l'italien, comme une vache espagnole.
Alors, je me suis fait avoir par vos deux paquets de pâtes, parce que je croyais que c'était le même poids, pas du tout. En fait,
ils
c'est
ont
la même,
même taille, mais ils ne sont pas remplis pareil, c'est
incroyable.
Ça l'astuce.
Merci beaucoup Olivier, merci Aline, on se retrouve demain, et Olivier, on se retrouve évidemment tout à l'heure à 9h.
Avec Julien Courbet.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Philippe Cavrivière que vous retrouvez tous les matins à juste avant 8h. Il était hier avec le professeur Amine Benyamina et la docteure Servane Mouton, les coprésidents de la commission Écran.
Je suis très content d'être face à Amine Benyamina et Servane Mouton. Et quand j'ai vu le casting, j'ai tout de suite contacté mes amis racistes de Fréjus. J'ai dit, on a un Algérien et un Mouton. Est-ce qu'il n'y a pas des vannes racistes à faire? Alors, à base d'Aïd et de Méchoui. Et ils m'ont dit, oui, tout à fait. Mais il y en a plein. Mais on ne va pas les faire parce qu'on n'est pas sur Sud Radio ou sur Europe 1. On est sur RTL. En tout cas, moi, Servane et Amine, je vous trouve très couillu de nous alerter sur les ravages des écrans pour les plus jeunes dans une radio du même groupe que la chaîne Gulli. Et à chaque fois que vous ouvrez la bouche, l'action M6 perd 15%. Et le nouveau PDG, David Laramendi, 2 ans d'espérance de vie.
Alors, Philippe, vous pouvez nous parler de l'addiction des enfants aux écrans, néanmoins.
Évidemment, je suis très à l'aise sur le sujet, puisque j'ai deux chats, j'ai pas d'enfants, mais j'ai déjà pris le train. Et avec ma compagne, quand on voit des parents qui laissent leurs enfants devant un écran, on leur lance un regard réprobateur. Oui. On fait... Non mais enfin, mais quelle éducation! Et puis, dès que les chiens se mettent à faire autre chose, à parler très fort en commentant le paysage, on fait, ah, une vache, ah ben une vache, ah ben une autre vache, ou qu'ils font un jeu de société en hurlant, ah, Jacob il triche, oh, et puis Isaac il a mis son crayon de couleur dans l'œil de Selma. Ah, au bout de 3 minutes, t'as envie de dire aux parents, mais bon sang, foutez-les devant un dessin animé qu'ils arrêtent de gueuler. De toute façon, vos enfants sont cons comme des sgegs. C'est pas un épisode de Pat Patrouille de plus ou moins qui va sauver de l'échec scolaire ces petits trous du cul. Voilà.
Philippe Cabrivière, en pleine forme, hein, comme tous les jours. C'était hier, juste avant 8h, et vous le retrouverez bien évidemment en direct tout à l'heure. Je vous signale qu'on apprend à l'instant le décès du romancier américain Paul Auster. Il souffrait d'un cancer, il est décédé à l'âge de 77 ans. Évidemment, on y reviendra plus tard dans cette matinale. Marina, aujourd'hui, ce qui nous attend, bah, c'est d'abord une chute des températures. Dans le sud-ouest, on perd 8 degrés quand même.
Oui, on sera bien en dessous des moyennes de saison. Par exemple, à Bordeaux, il fera 13 degrés cet après-midi. On devrait avoir 20 normalement à cette période de l'année, donc quand même 7 degrés en dessous des moyennes de saison. 13 à La Rochelle aussi, à Agen ou encore à Biarritz, donc ce sera frais hein, dans le sud-ouest. 14 seulement à Toulouse, sinon on aura 17 à Nice et à Marseille, là aussi c'est un petit peu frais pour la saison. 19 à Bastia et à Orléans, à Perpignan. En revanche, sur le quart nord-nord-est du pays, c'est l'inverse, il fera doux. On aura encore de l'air chaud à Paris, 21 degrés. À Lille, 22. On aura 23 à Mulhouse et jusqu'à 26 à Strasbourg. Et là, pour Strasbourg, on sera 6 degrés au-dessus des normales de saison parce que normalement, on devrait avoir 20. Donc, il y aura vraiment une grande, grande différence entre le sud-ouest et le nord-est du pays cet après-midi côté température.
Et alors, dans le ciel, ce sera très, très perturbé.
Oh là là, oui, deux perturbations qui vont donner un temps bien perturbé sur le pays, quasiment tout le pays, avec donc des nuages, des pluies soutenues de la Corse à la Méditerranée en remontant vers le Massif central, le centre-Val de Loire et cet après-midi la Normandie, parfois accompagnée d'orages. On va y revenir, parce qu'il y a une vigilance orange à 6h pour les orages. Alors, la zone où il y aura un temps beaucoup plus calme et beaucoup plus agréable, c'est l'Alsace et la Lorraine, puisque ce sera sec pour vous, et avec les températures que vous aurez, hein, entre 23 et 26 degrés, ce sera très agréable. Et puis, il y aura un mieux dans l'après-midi sur la façade atlantique, c'est-à-dire que mieux, vous aurez moins d'averses que ce matin et quelques éclaircies, mais enfin, il y aura quand même un risque d'averses. Même chose pour l'ouest de la Bretagne. Et puis la neige qui va s'inviter sur les Pyrénées et les Alpes, encore une fois, et on attend pas mal de neige sur l'ouest des Pyrénées, puisqu'on attend 10 à 15 cm de neige à partir de 1000 mètres cet après-midi. Et donc cette vigilance orange aux orages, ça va commencer à partir de 17h par la Bourgogne et la Champagne-Ardenne. Trois départements sont en vigilance orange, seront en vigilance orange, l'Yonne, la Marne et l'Aube. À partir de 19h, ce sont tous les départements de la région parisienne qui seront en vigilance orange aux orages, donc 8 départements de la région parisienne à partir de 19h, et à partir de 21h, ces orages toucheront l'Oise, la Somme et l'Aisne.
Et on a un message de Jacques de Lons-le-Saunier dans le Jura, il a 10 degrés, temps couvert. Il est où le printemps, il est où, écrit-il. Il est où le bonheur, il est où. Il n'est pas pour tout de suite, Jacques.
Non, il est caché, il est bien caché. Il est où le bonheur,
il est où. Nous sommes le mercredi 1er mai, c'est l'anniversaire de Ray Parker Junior aujourd'hui. Vous vous souvenez de cette chanson?